Bonjour à tous. Tous les critères du programme économique du gouvernement à fin décembre 2011 ont été respectés avec une meilleure orientation vers le secteur social. C'est le ministre congolais des Finances qui l'a dit jeudi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse où il dressait le bilan économique 2011. Il se tient depuis mercredi à Lubumbashi un forum national sur l'agriculture et sa mécanisation en RDC. Les participants évaluent le progrès réalisé avec la mécanisation de l'agriculture. L'objectif final consistera à obtenir la sécurité alimentaire en RDC. La Direction générale des impôts demande aux professions libérales de souscrire à la déclaration d'assujettissement à la TVA, même si leur chiffre d'affaires annuel n'atteint pas les 80 millions de francs congolais. Bonjour, bon week-end et surtout bienvenue à vous tous à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Votre magazine vous propose les analyses et commentaires de Michel Somoué. Il est président de la Corporation de petites et moyennes entreprises congolaises. Monsieur Michel Somme est au téléphone. Monsieur Michel, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel, mais je ne suis pas le président, je suis la directrice déléguée de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises.
Merci pour le correctif et devant ce micro, Daniel Tampinzoni et Nathalie Badinabo vous présentent Panorama Économique. Bonjour et bienvenue à tous.
Panorama Économique, le dossier.
Le ministre des Finances a dressé jeudi ici à Kinshasa le bilan économique de l'année 2011.
Matata Ponyo a affirmé devant le journaliste, le diplomate et directeur des régies financières que les critères du programme économique de gouvernement à fin décembre 2011 ont été respectés. Pour le ministre des Finances, les dépenses de l'État ont connu une meilleure orientation vers le social, comme nous dit ici Agaz Pona Elema.
Le programme économique du gouvernement avait retenu comme principaux objectifs un accroissement de 6,5% du PIB. À fin décembre, cet accroissement était estimé à 7%, dépassant donc les prévisions. L'inflation annuelle ou hausse des prix prévue à 17% a pu être maintenue à 15,4%. N'eût été l'envolée des cours des produits alimentaires et énergétiques en international, il ne dépasserait guère les 7% selon Matata Ponyo. Sur le marché de change, le franc est situé à 910 francs pour 1 dollar. Alors qu'il était de 915 à la fin de l'année 2010, soit une appréciation de 0,5%. Bref, tous les critères du programme économique du gouvernement à fin décembre 2011 ouvrent la voie à une cinquième revue satisfaisante par le FMI. Du bilan dressé par l'Agence nationale, l'on peut également retenir que la masse salariale est passée de 55 à 70 milliards de francs congolais entre 2010 et 2011. Ses salaires, plus consistants selon lui, ont été également plus réguliers. En outre, à ce jour, 8,5% de la paye des fonctionnaires se fait par voie bancaire. L'objectif est qu'à la fin de 2012, toute la paye soit bancarisée. Pour l'année qui commence, le programme économique du gouvernement compte, entre autres, voir croître de 6% la production par habitant ou PIB. Le taux d'inflation devra être davantage maîtrisé à 9%. Le taux de croissance, lui, devra passer d'un à deux chiffres.
Voilà, merci beaucoup Agathe Pona. C'est le moment de retrouver Michel Somoué, l'administrateur délégué des petites et moyennes entreprises au Congo. Monsieur Michel, vous avez suivi ce reportage de Agathe, les faits sont sacrés, les commentaires et les analyses libres à vous. Qu'est-ce que vous dites à ce stade?
Ce qu'il faut dire, c'est que le ministre des Finances n'a peut-être pas menti du tout. Parce qu'il y a quand même une grande différence qu'il faudrait faire entre une économie de beaux chiffres et une économie du bien-être. J'ai comme l'impression que la République démocratique du Congo est décidément orientée vers le culte de l'économie de beaux chiffres, qui traduit en termes de niveau de vie, en termes de conditions de l'existence humaine, ne signifie absolument rien. Rien du tout, parce que nous autres, nous venons de l'intérieur, nous venons du pays dans le cadre de la campagne électorale, et je me suis rendu compte personnellement que les conditions de vie deviennent de plus en plus précaires. Dans une économie où la croissance du PIB est ainsi positive jusqu'à atteindre 7% d'une année à une autre, ça devrait se traduire par une amélioration, tant soit peu, des conditions de vie des gens humains. Dans une économie où le taux d'inflation, dit-on, semble être maîtrisé, on devrait le ressentir dans l'assiette du consommateur, se rendre compte que les conditions de vie se sont améliorées, les achats des consommateurs se sont améliorés en termes quantitatifs si les prix n'ont pas progressé de façon à déprimer le pouvoir d'achat de la population. Dans une économie où, dit-on, l'essentiel du produit a été orienté vers le secteur social, et je pense qu'on devrait avoir quand même des meilleures conditions sanitaires, des meilleures conditions d'éducation. Mais je viens de l'intérieur du pays, une fois de plus, je vous le dis, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, j'ai l'impression que la réalité est tout à fait catastrophique. L'économie est en perte de vitesse sérieuse, le social est en perte de vitesse sérieuse, et pour vous donner une mesure seulement en ce qui concerne le social, vous n'avez qu'à voir l'aggravation de l'insécurité sociale dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuruna, même pas Kuruna. Il faut regarder combien de policiers, combien de militaires sont dans le pillage systématique de la population civile qui se promène sans armes.
Monsieur Michel, quand même, allons sur le marché de change. Quand même, le franc congolais a gardé un peu de sa valeur toute cette année.
Le problème est que le franc congolais n'est pas la monnaie de référence de l'économie nationale. L'économie congolaise ne se conjugue pas en franc congolais, elle se décline en dollars américains. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un taux de change de 910 au Congo, si on ne le maintient pas de façon artificielle par la privation des salaires des fonctionnaires, par la répression financière, comme on dit, la répression de la demande, on peut obtenir même un taux de change beaucoup plus bas, mais qui n'a aucune signification au quotidien du Congolais. C'est ça le problème. Ce n'est pas de la stabilité. J'ai toujours dit, il ne faut pas confondre la stabilité et l'inertie. Le franc congolais n'est pas stable, il est inerte. Le franc congolais ne fonctionne pas dans l'économie nationale. La monnaie de référence, l'étalon des valeurs, le dollar américain. On ne peut pas parler de l'inflation en se référant à une monnaie qui ne constitue pas une norme des prix. Parce que tous les prix au Congo se réfèrent au dollar américain. À partir du moment où une monnaie n'assume pas cette fonction d'étalon des valeurs, on ne peut pas parler de l'inflation en se référant au comportement des prix dans cette monnaie-là. Voilà une erreur. On ne peut pas non plus se référer à la stabilisation de la valeur interne et externe du pouvoir d'achat des individus en se référant au taux d'échange d'une monnaie qui ne signifie rien, sinon un artifice simple de la Banque centrale qui a peur d'imprimer de la monnaie et évoque la complicité du gouvernement qui a peur de payer les salaires des agents correctement. La preuve est que vous le savez, même au sein de la Banque centrale, les agents n'ont pas été payés, dit-on, n'ont pas été payés à la fin de l'année. Combien de fonctionnaires sont restés impayés pendant des mois, même à la veille des élections, de la campagne électorale, comme on le disait. Le gouvernement, un gouvernement qui prend le risque, un gouvernement qui joue, qui perd gagne en permanence. Comment peut-on considérer les variables économiques qui nous brandissent comme étant des variables fiables
pour apprécier... Oui, monsieur Michel, on évolue et lorsque le ministre des Finances dit qu'il va procéder à la bancarisation de tous les salaires, c'est-à-dire désormais, pour l'année 2010-2012, l'effort sera orienté vers les secteurs bancaires où devra passer toute la masse salariale.
Parce que justement, le gouvernement est définitivement impliqué dans la fuite des capitaux. On le sait très très bien que le Congolais ne dispose d'aucune banque nationale, aucune banque citoyenne, aucune banque à capital congolais, sinon les banques dont le métier principal est de favoriser la fuite des capitaux, c'est-à-dire l'appauvrissement permanent de l'économie nationale. Ce sont des banques qui sont ici au Congo pour portionner le peu d'argent qu'il y a, pomper à l'extérieur.
C'est que ce n'est pas une bonne chose.
Elles aspirent les capitaux et elles pompent à l'extérieur. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que en mettant l'argent des agents dans des banques, je ne joue pas au prophète des malheurs, les agents, c'est simplement pour favoriser ces banques, améliorer leur trésorerie, et les banques vont abuser de cet argent de façon régulière en complicité avec les ministères qui vont transférer cet argent chez eux, parce qu'il y a des commissions, soit dit en passant, ils vont s'améliorer. Quand les agents viendront pour tirer le salaire, ça sera des retards, ça sera des files d'attente, ça sera des situations problématiques qu'on connaît tous dans ce pays, mais entre-temps, l'argent aura servi essentiellement à appauvrir davantage la population. C'est ce que ça veut dire concrètement. Moi, je me dis que je serai tout à fait d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne la bancarisation de l'économie nationale lorsque le gouvernement trouvera sa bonne foi de dire qu'il faut favoriser l'émergence des banques congolaises, des banques à capital congolais. Tant que ces banques n'existent pas, tant que ces banques sont empêchées d'exister, tant que ces banques sont étouffées, y compris même les initiatives de l'État, J'ai du mal à croire que cette économie tournait un jour en faveur des aspirations profondes de la population du pays. Moi, je pense que tout ce qu'on fait comme bilan, ce n'est pas le bilan d'une économie nationale, mais c'est le bilan d'une économie étrangère qui fonctionne au Congo.
Le temps de continuer, Monsieur Michel.
Et de ce point de vue, on peut tout à fait féliciter les chiffres parce que l'économie étrangère fonctionne très bien et les réussit au jour le jour.
Deuxième dossier de la semaine, nous parlons de la TVA avec cet appel de la Direction générale des impôts à l'endroit des professions libérales.
Dans un communiqué du 13 janvier signé par le directeur général de cette régie financière, la DGI demande aux professions libérales de souscrire la déclaration d'assujettissement à la TVA, même si leur chiffre d'affaires n'atteint pas 80 millions de francs congolais l'an. Les intéressés devront s'adresser à la direction de la taxation et de la documentation pour les professions libérales installées à Kinshasa et au siège des directions provinciales des impôts pour la province. Les modèles de la déclaration est disponible sur www.dgi.gouv.cd.
Monsieur Michel, les professions libérales doivent aussi souscrire à la TVA.
Mais je crois savoir que la DGI avait déjà arrêté la liste des assujettis pour l'année 2012. Mais j'ai comme l'impression qu'elle se souvient tout d'un coup qu'elle a oublié certains aspects qui devraient aider au fonctionnement de la TVA. Mais soit. Mais disons qu'il ne faudrait pas que la DGI prenne le risque d'amplifier la tracasserie fiscale dans ce pays. Oui. Parce que la profession libérale, elle est trop difficile à appréhender. Parce qu'il faut correctement la définir dans un pays où l'économie est informelle.
Justement, Monsieur Michel, la DGI, nous n'avons pas réussi à obtenir cette définition de la DGI parce que leur communiqué est resté muet, personne n'a voulu les commenter. Essayez un peu de nous dire c'est quoi une profession libérale, qui est concernée par cette frange.
La profession libérale concerne tout. D'après moi, il faut dire que ce sont une économie libérale. C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire la libre entrée, la libre sortie. À partir du moment où chaque individu, il y a des professions qui sont catégorisées comme étant des professions libérales dans notre pays.
Comme?
On parle par exemple des métiers comme le métier d'avocat, le barreau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un salarié. Essentiellement, ce que ça veut dire, la profession libérale, c'est juste la profession qui ne sont pas des salariés.
Oui.
Des gens qui se...
Vous vivez au quotidien de vos activités.
Qui sont patrons d'eux-mêmes. Mm-hmm. Voilà la profession libérale. Et je disais tout à l'heure que dans un pays essentiellement, où l'économie est essentiellement informelle, à 99% ou 98%. Mais il faut dire que tout le monde est libéral. Tout ce qui se passe dans cette économie relève de ce qu'on devrait appeler la profession libérale. La confusion est totale entre la profession libérale et l'économie informelle dans ce pays. Alors, je me pose la question de savoir comment la DGI va pouvoir effectivement identifier ces gens. Et je ne vois pas comment la DGI va compter sur la bonne foi des individus pour s'auto-déclarer comme ça, mon profession libérale, et se faire, et s'assujettir de bonne foi au prélèvement de la TVA, même si la TVA favorise justement, je devrais le dire, les assujettis. Parce que c'est une façon pour eux de participer à la collecte de l'impôt en faveur de la DGI. Ils jouent pratiquement la fonction de la DGI devrait jouer, mais ils le font pour le compte de la DGI. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas que ce soit dangereux du tout pour les assujettis. Seulement, je ne sais pas comment la DGI va s'y prendre pour déterminer de façon claire et précise qui sont ceux qu'elle considère comme étant de la profession libérale dans cette marée d'économie informelle. Je ne sais pas comment elle va s'y prendre. J'ai peur aussi que la DGI, finalement, ne favorise un regain de la spéculation excessive sur tous les prix. Soit dit en passant, j'ai entendu des gens qui me disaient, maintenant, même quand on demande la dot, il faut couper avec la TVA dedans. Donc, voilà où on est en train d'aller.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Retour sur les autres infos de la semaine en plus bref, la Banque mondiale a nommé un nouveau vice-président pour la zone Afrique.
Il s'agit du Sénégalais Mactar Diop. L'annonce a été faite mardi par le président du groupe de la Banque mondiale, Robert Zolik. Makhtar Diop succède ainsi à Madame Obiageli Ezekwesili, de nationalité nigériane, qui va devoir retourner dans son pays. Le Sénégalais Diop était le directeur des opérations de la Banque mondiale au Brésil, un poste qu'il occupe depuis 2009. Il prendra ses nouvelles fonctions le 6 mai 2012. Ancien ministre de Finances du Sénégal et président du Conseil de ministres de Finances de l'Union monétaire ouest-africaine, Diop a intégré la Banque mondiale en 2000. Et depuis lors, il a occupé divers postes de responsabilité, tels que directeur des opérations pour le Kenya, l'Érythrée et la Somalie, ainsi que directeur de la stratégie et des opérations au sein de la région Amérique latine et Caraïbes.
Jeudi, nous parlions des prix des produits sur le marché qui sont restés très élevés à Mbandaka.
Les plaintes de la population et les explications de certains économistes en rapport avec l'application de la TVA n'ont rien changé à la situation. La Fédération des entreprises du Congo, section Équateur, indique que les opérateurs économiques, pour la plupart des expatriés, fixent le prix de leurs articles au mépris des normes édictées par la DGI et sollicitent l'expertise de la division provinciale de l'économie qui devrait faire le suivi de l'application de la TVA sur le terrain.
Toujours jeudi et en Ituri, le prix de poissons frais et salés ont presque doublé sur le marché à Kiomia, à Kisenyi, au bord du lac Albert ainsi qu'à Bounia.
L'association de pêcheurs du lac Albert soutient que cette hausse est consécutive à la mesure de l'autorité du district interdisant l'utilisation de certains filets à mailles prohibées sur le lac Albert. Le commissaire de district assistant lui indique que cette décision qui va durer 3 mois vise entre autres la reproduction de poissons.
Monsieur Michel Soumoué commente l'actualité économique avec nous. Il est au téléphone. Monsieur Michel, sur l'une ou l'autre info de cette série, un mot à placer?
Je souhaite plein succès au nouveau vice-président de la Banque mondiale.
Makhtar Diop.
Qui fasse l'honneur quand même de l'Afrique quelque part. Et que surtout qu'il contribue quand même tant soit peu à la réforme de ces institutions internationales qu'on appelle la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Je pense qu'elles ont quand même besoin, elles aussi, d'une profonde restructuration pour s'adapter aux réalités économiques des pays dont elles veulent bien assurer le contrôle et peut-être auxquelles elles voudraient bien appliquer, apporter leur contribution pour le développement pour ce qui concerne le cas de la Banque mondiale en particulier. Mais quant à ce qui concerne les prix, la flambée des prix qui est liée à l'application de la TVA, moi je pense que c'est tout à fait normal, mais vous verrez que tout le long des années, par exemple pour l'année 2011, et c'est là qu'il y a un problème, vous voyez, tout le long de l'année 2011, le phénomène de sursaut des prix, on les a connus. Les problèmes de phénomène d'embargo, on les a connus. Mais au bout de compte, quand le gouvernement vous fait son bilan pour dire « voici, on a maîtrisé l'inflation », ça vous fait tourner la tête, vous demandez si vous êtes en train de rêver. Mais de même qu'on est en train de voir ces épisodes de prix qui flambent de façon incommensurable, de façon incompréhensible, le gouvernement est tout à fait incapable, en commençant par la DGI et tous les secteurs, en particulier le ministère des Finances, totalement incapable d'assurer, j'allais dire, un tunnel dans lequel les prix devraient se comporter. Parce qu'il ne suffit pas d'appliquer une nouvelle mesure, il ne suffit pas d'apporter un nouvel instrument de gestion ou de régulation de l'économie. Il faut encore envisager et anticiper les retombées, les implications, les effets d'entraînement. C'est ce qu'on est en train de faire. Avec la TVA, malheureusement, on se rend compte que pourtant, je l'affirme, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur plusieurs chaînes de télévision, la TVA est l'un des meilleurs systèmes fiscaux à travers le monde, mais je me rends compte, malheureusement, qu'en ce qui concerne le Congo, les mesures d'encadrement de cet instrument n'ont pas été prises. C'est un. De deux, la communication pour faciliter la compréhension même et l'intérêt que les agences économiques ont à prélever et en particulier les entreprises assujetties, ont à prélever la TVA, n'ont pas été communiquées suffisamment. Et les agents, les consommateurs finaux, comme on les appelle, deviennent des victimes, encore une fois, des victimes des mesures économiques anachroniques. Deviennent des victimes, finalement, des incompétences du gouvernement. C'est ça le problème dans notre pays. Les consommateurs ne sont pas protégés du tout. Ils subissent et ils doivent payer toutes les incompétences, toutes les incapacités du gouvernement. Ça, il faudrait qu'un jour, quand même, on s'arrête, que les prix doublent. quand bien même on peut comprendre qu'il puisse y avoir un minimum de dérapage lorsqu'il y a une nouvelle mesure qui tombe. Mais le dérapage, aller jusqu'au double des prix, c'est une catastrophe dans une économie nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs sont laissés pour compte. Il faudrait quand même qu'un jour, on ait un gouvernement, des hommes compétents, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui savent anticiper, des hommes qui savent arrêter des prévisions économiques viables pour que les instruments que le monde entier a expérimentés, que le monde entier a salués, puissent apporter les mêmes résultats dans notre pays, plutôt que de tourner en dérision, de tourner l'économie nationale en catastrophe, en chaos permanent. Nous sommes déjà une économie du chaos au départ.
Monsieur Michel, je veux faire un pas en arrière. On est passé à d'abord le 1er janvier, ceux qui étaient assujettis à la TVA devraient réaliser 80 millions de francs congolais l'an. Mais à partir du 13, avec ce nouveau communiqué de la DGI, on demande aux libéraux, aux professions libérales de déclarer aussi leurs activités, même s'ils n'ont pas 80 millions de francs congolais l'an. Bon, là, on peut dire, on peut déduire qu'une maman qui vend les beignets dans les rues, dans les quartiers, peut aussi être assujettie.
Mais c'est ce que cela veut dire, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, la confusion et la tracasserie fiscale auxquelles la DGI maintenant va nous exposer. Parce que la maman qui vend les beignets fait une profession libérale, il faut le reconnaître. Je dis, tant qu'on fait, on effectue un travail non salarié, mais un travail générateur de revenus, on est dans la profession libérale. Mais encore une fois, l'imprécision, l'imprévision de la DGI, l'absence d'un modèle prévisionnel, lorsqu'on envisage un nouvel instrument, l'absence de mesures d'encadrement, l'absence d'anticipation sur ce que cela pourrait rapporter de positif et de négatif, c'est que la DGI revient en arrière pour dire, écoutez, on élargit, on ajoute encore à la liste de ce qui était déjà assujetti, toute la profession libérale. Mais, et puis, on supprime les conditions de départ, 80 millions de francs, pour dire, maintenant, quel que soit le chiffre d'affaires, vous devez payer. Vous sentez tout de suite qu'on est dans une économie de tâtonnage. Vous sentez qu'on est en train de naviguer à vue. Donc, on est en train de heurter tous les obstacles dans tous les sens du monde. Et ça, c'est catastrophique. Lorsque une nation est gérée de façon comme ça, improvisée, lorsque une nation est gérée à tâtons de cette façon-là, mais je pense, encore une fois, je l'ai dit, c'est la population qui le paye, et surtout que, on le sait très bien, la TVA, elle frappe le consommateur le plus pauvre. C'est généralement les gagnes petits qui sont les plus victimes d'une TVA. Parce que ceux qui ont de gros revenus
ne sont pas
de grands consommateurs. Mmh. Ils ne dépensent pas beaucoup dans la consommation. Mmh. Ce sont les gagnes petits qui dépensent la totalité de leurs revenus dans la consommation. La TVA étant un impôt à la consommation, il frappe sans distinction toute forme de consommation. À ce moment-là, ce sont des gagnes petits, et ils sont 99% de la population congolaise qui sont victimes de ces anachronismes du gouvernement. Et du point de vue économique, l'État est en train de jouer à la provocation de la population, parce que lorsque la pauvreté aura touché le point exorbitant, lorsqu'elle aura atteint son paroxysme, son point de paroxysme, on ne saura pas contrôler cette population. Ça, c'est dangereux. Donc, quand on prend des mesures qui sont des mesures intelligentes dans d'autres pays, et qu'on ne les prend pas déjà moins intelligents dans un pays comme le nôtre, c'est très dangereux. Je n'insulte pas, je constate, parce que la preuve est là et vous la constatez avec moi. Je suis désolé pour ça.
Panorama économique, reportage.
Ouverture ce mercredi à Lubumbashi du Forum national sur l'agriculture et sa mécanisation. L'objectif poursuivi est d'évaluer les progrès réalisés avec la mécanisation de l'agriculture congolaise depuis 2009. Il est aussi question de promouvoir ces domaines vitaux afin d'atteindre la sécurité alimentaire. Cet atelier est une initiative du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage en collaboration avec le ministre provincial et inspecteur provincial de l'agriculture, les fermiers et paysans. Paulin Munanga pour le reportage.
Plusieurs points sont inscrits au cours de ce forum de 4 jours. C'est notamment l'évaluation des performances réalisées dans le domaine de l'agriculture entre 2009 et 2011, période au cours de laquelle le gouvernement national avait acquis plus de 2000 tracteurs. À ce sujet, le ministre Norbert Basengezi affirme que le bilan est mitigé. Sur 80 millions d'hectares de terres arables, seuls 11 millions sont cultivés. Ainsi, pour l'amélioration de l'agriculture, il envisage entre autres la fabrication locale des petits outillages agricoles comme les houes, la possibilité de produire localement des engrais chimiques, la création des brigades agricoles. Tout cela dans l'objectif de cultiver environ 200 hectares de champs dans chaque secteur par saison culturelle. Il envisage aussi la récupération de près de 1800 fermes abandonnées. Dans le secteur de la pêche, l'accroissement des nombres des étangs est prévu pour promouvoir le centre d'alvinage. On écoute le ministre Norbert Basengezi qui explique ici les choix de Lubumbashi pour abriter ces forums et souligne aussi l'importance des visites didactiques au cours du forum.
Nous avons choisi Lubumbashi parce que depuis 2009, quand nous avons donné des semences, beaucoup d'efforts ont été fournis au niveau local, au niveau provincial, en combinaison avec l'effort national. Nous avons voulu faire accompagner ces forums par des visites didactiques dans les champs pour que tout ce que nous vivrons ici puisse être transposé dans toutes les provinces.
Profitant de cette occasion, le gouverneur des provinces Moïse Katumbi a fait savoir que la relance effective de l'agriculture au Katanga a permis de garantir l'autosuffisance alimentaire, de freiner l'importation des produits alimentaires et surtout de stabiliser leur prix.
Pendant plus de 4 ans, le prix de la farine de maïs, qui est un baromètre économique important au Katanga, est resté stable. Le spectre de la famine au Katanga, sans prétention aucune, semble s'être estompé. Ce résultat procède à la fois à la politique de mécanisation agricole, de l'exonération des intrants et équipements agricoles, mais également de la volonté du gouvernement provincial de soutenir l'agriculture et de mobiliser l'investissement privé dans le secteur agricole.
Signalons par ailleurs que Norbert Basengezi a par la même occasion lancé officiellement la campagne de vulgarisation du code agricole qui sera d'application dans les prochains mois. Lubumbashi, Paulin Munanga pour Écho d'économie.
Merci Paulin, et ce sera la fin de Panorama économique, mais nous ne saurions mettre la boucle si nous n'accordons pas pour la dernière fois la parole à notre invité Michel Somoué qui commente et analyse l'actualité économique de la semaine avec nous. Michel, vous êtes au téléphone. L'agriculture en RDC, vous avez suivi cet élément et sa mécanisation surtout. Quel progrès on a enregistré et que faudra-t-il faire pour que l'agriculture retrouve vraiment sa place au sein de l'économie congolaise?
Il faut une grande gestion, Daniel, de l'économie nationale. Il faut. Parce que, regardez, on parle de la mécanisation agricole aujourd'hui comme étant la seule voie de salut, la seule branche de salut, et de mécaniser notre agriculture. Les résultats sont inévitables. Ils doivent être nécessairement très positifs si nous engageons dans une agriculture mécanisée. Mais le problème avec la mécanisation, c'est que, imaginez par exemple que vous alliez mettre un tracteur dans un coin reculé de la province du Kassai Oriental. Le coût de carburant, les charges d'exploitation sont incommensurables. Nous sommes le seul pays au monde où un litre d'essence à 14 prix à travers la nation. Nous sommes le seul pays au monde. Il n'est pas normal. Dans tous les pays du monde, prenons le cas des États-Unis d'Amérique, lorsque vous trouvez un litre d'essence d'une certaine catégorie, d'une certaine spécificité à 1 dollar le gallon, vous trouverez le même 1 dollar le gallon à 1000 km de là où vous vous situez. C'est le même prix à travers un pays, un même prix, pour un même produit, dans le même prix, dans le même pays, le même prix. Au Congo, vous avez le litre d'essence à Kinshasa à 1200 ou 1300, je ne sais pas. Vous arrivez en Bandaka, je ne sais pas moi, où il est à 3000, ailleurs il est à 4000, et puis après, c'est la spéculation. Dans ces conditions, comment le tracteur peut-il fonctionner pour que, effectivement, les charges d'exploitation ne favorisent pas la flambée des prix? Finalement, on va se rendre compte que les produits importés coûtent moins cher. La preuve est là. Le riz que nous importons coûte moins cher que le riz produit localement. Ça, il faut le reconnaître. Quelle que soit la mécanisation. Parce que la gestion de l'environnement économique global, elle est calamiteuse. Il faudrait que nous arrivions à assainir l'environnement économique, de telle sorte que nous ayons une économie nationale unie, intégrée, unifiée, de sorte que, et on le saura le jour que le même produit coûtera le même prix à travers toute la République. Sinon, l'agriculture au Congo, je l'ai toujours dit, 132 millions d'hectares de terres arables et fertiles. Ça, c'est un don du ciel. Le Congo a exactement la même superficie de terre arable que la Chine. Mais on le dit, avec sa superficie, la Chine nourrit plus d'1 milliard d'habitants 1,5 milliard d'habitants et exporte le surplus. Mais avec la même superficie, le Congo est incapable de nourrir
70 millions
de la population qui importe. Il importe jusqu'au turdan. C'est quand même catastrophique. Je pense que il est temps, comme nous avons amorcé un nouveau mandat, une nouvelle mandature, qu'il y ait quand même un nouveau système, une nouvelle réflexion, qu'on ressuscite, qu'on mette sur la table des véritables problèmes qui préoccupent la nation et l'économie nationale pour que nous puissions nous développer un jour.
Je vous remercie beaucoup, monsieur Michel Somoé, pour cette première rencontre de Panorama économique de l'année 2012. Toute l'équipe vous présente ses vœux, les meilleurs et plein de bonnes choses pour cette année nouvelle. Les mêmes vœux s'adressent aussi à vous, chers auditeurs. Panorama économique, c'est fini pour cette semaine. Devant le micro, c'était Daniel Tambinzuni et Nathalie Badinabo qui vous ont présenté Panorama économique. Très bonne suite de programmes sur votre radio, surtout au bon week-end.